Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne de radio Radio Réveil. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 février 2025. Il est exactement 18h, heure de Port-Gentil. Voilà, nous sommes dans la joie d'être avec vous ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et vous savez, c'est toujours un honneur et un privilège lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, membres du royaume de Dieu, de nous tenir devant un micro, devant une foule, devant des frères, des sœurs, ou même dans un carrefour pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est un privilège. Donc ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de deux frères qui sont avec moi autour du micro, autour des micros, autour de la table, pour partager la parole. Donc, je vais laisser les frères se présenter.
Je suis le frère Sosten.
Bonsoir, moi c'est le frère Chopin.
Très bien. Donc, voilà. Comment allez-vous?
Ça va, Dieu fait grâce.
Ça va, très bien.
D'accord, très bien. Donc, juste pour que les frères nous écoutent bien, pensez à juste bien parler à côté du micro et suffisamment fort pour édifier. La Bible nous dit que quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, que ce soit pour édifier. Donc, il faudrait, en plus de tout ce que nous allons partager, que nos voix soient assez audibles pour que les frères et les sœurs et tous les auditeurs qui nous reçoivent dans leur maison, dans leur véhicule, puissent nous entendre correctement. Donc, ce soir, nous avons à cœur de partager avec vous sur l'amour de Dieu. C'est un thème qui est assez important parce que c'est la base, en fait, de l'Évangile. Hein, vous convenez avec moi que l'amour de Dieu, c'est la base même de l'essence de l'Évangile.
Amen.
Donc, il est important pour nous de pouvoir partager cet amour et de pouvoir expliquer par la parole de Dieu c'est quoi cet amour. Parce que l'amour de Dieu est souvent mal compris. Et comme on comprend mal l'amour de Dieu, ben, parfois certaines personnes prennent des mauvaises décisions, des mauvais choix, font des mauvais choix parce qu'ils ont mal compris l'amour de Dieu. Et certaines personnes ne craignent pas Dieu parce qu'ils pensent que l'amour de Dieu, c'est l'amour d'un papa gâteau. Et de même qu'il y en a qui, la crainte de Dieu, ils voient Dieu comme étant un père fouettard. Donc, l'amour de Dieu nous permet justement d'aborder ces deux aspects. L'aspect d'un Dieu qui n'est pas un Dieu fouettard, mais l'aspect d'un Dieu qui n'est pas aussi un papa gâteau. Donc, qui nous laisse faire ce que nous voulons, comme on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Non. On va essayer d'aborder par la grâce du Seigneur pendant 45 minutes, sinon un peu plus, ces aspects-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer par prendre un passage dans le livre de Romains. Romains au chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 6. À partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans la Bible, quand on lit dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, au chapitre 6, on constate le Seigneur au chapitre 5, dans ma chapitre 6, Dieu qui nous parle et qui dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père céleste qui est dans les cieux. Donc, ici, dans le passage de Romains, on nous dit qu'on pouvait quand même mourir pour quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un, un humain, qui pouvait se dire, bon, pour quelqu'un de bien, je peux quand même mourir. Mais en général, parfois, il est même difficile de mourir pour sa femme ou pour son enfant. C'est souvent difficile. Et donc, la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, alors que nous étions encore des pécheurs, loin de Dieu, loin de la vérité de l'Évangile, loin de l'obéissance de la parole de Dieu, alors que nous étions des voleurs, des menteurs, des impudiques, des tricheurs, des adultères, des gens qui pratiquaient la magie, la sorcellerie. La Bible nous dit que dans toutes ces choses, avant que Christ ne meure à la croix, Dieu pensait déjà à nous. Et quand Christ est venu mourir à la croix, en mourant, il se souvenait de ceux qui étaient déjà là sur la terre, mais également de ceux qui allaient venir après, donc de vous et moi, et de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, les générations après nous. Christ a porté ce fardeau à la croix pour eux. C'est ça l'amour de Dieu. Cet amour que souvent les hommes ont du mal à comprendre et se dire, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu m'aime? Ben, la preuve que Dieu t'aime, la première et la plus importante, c'est que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Alors que tu ne le mérites pas et que tu ne le méritais pas et que tu ne le mériteras jamais. Par amour, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour tous les humains. C'est un amour sans calcul. Hein. L'amour de Dieu n'est pas un amour où Dieu calcule, où comme nous les humains, nous donnons par intérêt, où nous donnons parce que nous attendons recevoir quelque chose en retour. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour où Dieu donne. La Bible dit dans Jean 3, au verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et l'amour de Dieu consiste à donner. Il a donné. C'est un amour qui est basé sur des actes. Ce n'est pas un amour qui est basé sur des paroles. Dieu a parlé et il a fini par poser les actes pour montrer aux hommes son véritable amour. Et c'est vraiment magnifique. C'est magnifique cet amour. Moi, je me souviens combien de fois je n'aimais pas Dieu, combien de fois je passais mon temps à débattre avec les chrétiens, mais Dieu, dans son amour, a été patient avec moi. Combien de fois je me moquais du nom de Dieu? Combien de fois je me moquais des chrétiens lorsque je les coinçais et que je sentais qu'ils n'arrivaient plus à répondre? Je pensais que j'étais fort. Mais Dieu, dans son amour, regardait et disait, celui-là, je l'aime tellement que je vais encore envoyer des gens pour lui partager l'évangile. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu ailles, même si tu vas te cacher dans le fond de la mer, la Bible nous dit, où irai-je? Si je monte au ciel, tu y es. Si je vais sous la mer, tu y es. Partout où tu pourras vouloir aller te cacher, l'amour de Dieu y est et te trouvera. Et vous savez ce qui est magnifique et ce qui est beau en fait, et souvent quand on parle de la différence entre la Nouvelle Jérusalem et l'enfer, c'est l'absence de Dieu en fait. C'est-à-dire, le feu n'est pas tant le problème. Le problème, c'est le feu sans la présence de Dieu. C'est comme la Nouvelle Jérusalem, sans Dieu, malgré le fait qu'il y ait des pierres précieuses et tout le reste. Ben, les gens vont s'entre-déchirer parce qu'il y en a qui voudront prendre l'or. Les plus forts prendront l'or, les plus forts prendront les diamants. Et puis, chacun va chercher à mettre en place un commerce. Mais la beauté de tout ça, c'est la présence de Dieu, en fait. C'est cet amour. Parce qu'il dit, ben, écoutez, je serai moi-même avec vous. J'essuierai vos larmes. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, c'est la présence de Dieu. C'est cet amour-là d'avoir Dieu avec nous. Et vous voyez, quand Jésus meurt, dans son amour, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Par amour, il est mieux que je m'en aille. Mais quand même pour vous consoler, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia.
Amen.
Et ça, c'est amour. Donc, d'entrée de jeu, c'est ce que moi j'avais à dire. Si quelqu'un veut prendre la parole, toute liberté.
Oui, frère. Merci encore pour l'occasion que je nous donne d'être présent ici. Il faut signifier que Dieu est amour autant pour moi. Il n'a pas changé, seuls les hommes changent. Nous allons prendre un passage pour pouvoir illustrer ce que je dis dans 1 Jean 4, à partir du verset 7 à 8. La Bible déclare, « Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. » Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, ici, c'est pour nous montrer réellement la fidélité et l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous. Lors de l'introduction du frère Evra, il faisait allusion du passage Jean 3, 16, qui dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné son amour à chacun d'entre nous sans faire de différence. Si tu es un voleur, tu étais meurtrier, tu étais adultère, mais il n'a pas regardé à nos fautes. il s'est donné à la croix afin que quiconque voit en lui l'amour véritable d'un père à son fils. Amen. C'est ce que je tenais à rajouter.
Oui, je remercie pour ce privilège. Moi, je vais passer dans le passage de 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 20. Il est écrit, « Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Alors moi, ici, dans ce passage, j'aimerais dire ici, c'est que moi, j'étais quelqu'un qui vivait dans le monde. Je ne connaissais pas Dieu encore. Mais plutôt, c'est ma femme qui était la première à être convertie. Et là, à chaque fois quand elle venait avec les brochures pour me les donner, j'avais toujours l'impression de prendre ces brochures, les déchirer et je les mettais toujours à la poubelle. Et j'avais l'habitude de dire, oh, mais les messages, c'est-à-dire les témoignages que j'écoutais des autres, quand je les écoutais, je prenais ça comme un jeu. Je disais, oh, c'est du mensonge, c'est pas la vérité. Donc, à chaque fois, quand elle venait, elle me passait les brochures, je les déchirais. Des fois, quand elle mettait les louanges, alors j'enlevais les CD, je mettais Oliver Gaumont, moi, je me mets à danser. Et j'étais quelqu'un qui buvait. Donc, quand je viens là-bas, des fois, je suis ivre de vin. Je viens, je l'embête. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle a porté vraiment un fardeau pour moi. Parce qu'elle se mettait tous les jours à la prière. Et un jour, on l'a demandé à l'église, « Mais est-ce que tu vis avec quelqu'un ?» Elle a dit oui. Et ils l'ont demandé, « Mais il faut venir avec ce monsieur à l'église. » Elle a dit, « Je ne peux pas l'amener, parce que si je l'amène, il viendra pour me faire plaisir. Mais par contre, je prie pour lui. Le jour que Dieu va le toucher, sûrement quand il viendra, il ne va plus repartir. »
Amen.
Et c'est comme ça, un jour, elle se mettait à repasser. Ils avaient séminaire à l'église. Un jour, c'est comme ça que je me suis décidé. J'ai dit, non, repasse ma tenue. Aujourd'hui, je vais un peu aller à l'église là où tu pries. Elle-même, elle était surprise. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et là, les gens, ils m'ont vu. Et il y avait aussi d'autres frères, d'autres sœurs aussi qui sont arrivés ce jour-là. Et il y avait la parole qui passait. On était en train de prêcher la parole. Et ils ont demandé s'il y avait des nouveaux qui sont arrivés. On s'est levé, on était au moins au nombre de 8. Alors, ils nous ont demandé de répéter des paroles si on voulait donner notre vie à Christ. On a répété ces paroles. Mais après ça, il y a eu quelque chose parce que j'avais l'habitude, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le matin, très tôt, j'avais l'habitude de sortir de la maison. Quand je sortais, c'était pour aller, c'est-à-dire que je voulais toujours boire quelque chose. Donc, quand je rentre dans un bistrot, je commence à prendre une bouteille. J'ai dit à la gérante, ouvre-moi. Je ne prenais même pas ça dans les verres, mais je prenais toujours la bouteille. Comme ça, je buvais. Mais quelque chose est arrivé. J'ai vu, c'est comme si j'ai bu des quantités de boissons. J'ai vu le ventre qui s'enflait. Je me suis posé la question, mais il y a un problème dans ce coin ou bien qu'est-ce qui ne va pas? J'ai bu juste un peu et j'ai dit non, vaut mieux sortir de là. J'ai laissé la bouteille. J'ai fait encore quelques kilomètres. J'ai marché. Je suis rentré encore dans une autre boutique. J'ai refait la même chose, j'ai recommandé. J'ai ressenti la même chose. Le ventre s'est enflé. J'ai dit, pourquoi je ressens ça? Je me suis posé la question, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai demandé à la gérante, donne-moi un petit jus. Quand j'ai pris, j'ai ressenti une grosse soif à moi et tout d'un coup, le ventre a diminué. Je suis sorti, j'ai dit, mais pourquoi ça s'est arrivé? J'ai dit non. Je suis reparti à la maison, j'ai expliqué ça à madame. J'ai dit, mais voilà ce qui s'est passé.
Au micro, s'il te plaît, pour les frères.
Je l'ai expliqué, j'ai dit voilà ce qui s'est passé. Je suis arrivé dans une place, un bistrot, j'ai commencé à prendre la première bouteille. Et là, voilà ce que j'ai ressenti. Le ventre s'est enflé, je suis reparti, j'ai laissé ça. Je suis reparti à la deuxième boutique pour reprendre une deuxième bière. Mais ça s'est passé encore pour la deuxième fois. Elle m'a dit, mais ce n'est pas tu as accepté le Seigneur. Ce n'est pas les paroles qu'on t'a dit là-bas de répéter. Ce n'est pas tu as accepté, tu as dit maintenant tu veux marcher avec le Seigneur. Elle m'a fait comprendre que non, que le corps que tu as, c'est le temple de Dieu. Tu ne dois pas le suer et t'enivrer de vin. Maintenant, tu dois marcher et ne plus boire de vin. Tu vas maintenant rien que prendre peut-être de la sucrerie, mais faut plus t'enivrer de vin. Tu dois simplement t'enivrer du Saint-Esprit. Ah bon, c'est ça? Oui. Ce que tu as vu là, c'est le départ, c'est le commencement. Alors, je bénis Dieu parce que j'ai compris que quand Dieu met un fardeau pour quelqu'un, au fait, il n'est pas seulement bien de prier seulement pour soi-même, il est bien pour prier aussi pour les autres, parce que ça, c'est ce qui consiste aussi à l'amour de Dieu. Donc, ce que ma femme avait fait pour porter ce fardeau, aujourd'hui, je suis venu à Christ, je l'ai accepté, Dieu vraiment, il est amour, et j'ai vraiment vu, vraiment, il y a beaucoup de choses que Dieu a aussi à faire, parce que j'ai vu vraiment la main de Dieu. Lorsque, quand on prie réellement, sérieusement, Dieu a délivré vraiment mes enfants à la maison.
Amen.
Je ne travaillais pas. Mais lorsque, quand on prie pour ce Dieu-là, vraiment, Dieu étend la main.
Amen.
Il est vivant. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.
D'accord, ok. Gloire à Dieu. En tout cas, on est tous des preuves vivantes de l'amour de Dieu. De là où Dieu nous a pris. Souvent, les gens pensent que parce qu'ils n'ont peut-être pas tué, n'étaient peut-être pas des braqueurs, des prostituées, que, bon, eux, ils n'ont rien à voir avec Dieu, quoi. Alors que la Bible nous fait comprendre que, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est à cause de ça, parce que tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Dans les psaumes, il est écrit qu'il n'y en a aucun qui cherche Dieu, je crois le psaume 33. Aucun qui cherche Dieu, aucun qui est juste. Ouais, et la Bible nous dit que c'est dans cette situation-là, dans cette position que Dieu a envoyé son fils à la croix mourir pour nous. Je vais prendre un passage dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 15. Paul dit, verset 9, je vais lire au verset 8 d'abord, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre de tous les apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » La grâce, c'est aussi l'amour, en fait. La grâce, quand on parle de l'amour de Dieu, on parle de la grâce, la faveur divine de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu afin que personne ne s'enorgueillisse. Et Paul était un persécuteur, il a persécuté l'Église. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas regardé à la persécution que Paul faisait à l'Église. Il a dit, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour annoncer l'Évangile partout où je l'enverrai. Et on a vu comment Dieu a travaillé avec Paul, comment Dieu a utilisé Paul et comment Paul s'est disposé à se laisser utiliser par le Seigneur. Nous voulons dire à ceux qui nous écoutent, peu importe ce que vous avez fait, l'amour de Dieu est suffisant pour vous pardonner. Et je voudrais soulever un aspect. C'est l'aspect de la culpabilité. On a des chrétiens qui vivent dans le passé pendant plusieurs années. Ils vivent dans leur passé. Il y a des chrétiens qui sont prisonniers de leur passé. Le diable fait tout pour les garder à l'intérieur. Ma Bible me dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nos iniquités, de toute iniquité. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas les péchés pour lesquels il va nous pardonner. Il nous pardonne pour tous nos péchés. Donc, si un chrétien, par le passé, a eu à faire des choses qui ne sont pas honorables, qui sont honteuses, dont on pourrait rougir lorsqu'on en parle, c'est vrai, devant les humains, mais on ne doit pas vivre de culpabilité. Parce que Jésus est mort à la croix et il a tout payé, il a tout accompli pour nous. Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains, qui accusera les élus de Dieu ? Personne. Qui accusera les élus de Dieu ? Personne ne peut accuser les élus de Dieu. Et Jésus va dire à cette femme dans Jean 8, « Femme, où sont ceux qui te condamnaient ?» Aucun n'était resté. Parce que leur conscience, à eux, était souillée parce qu'ils savaient que quand Jésus avait dit « Lequel d'entre vous n'a pas de péché, jette la première pierre », ben la Bible nous dit que tous, du plus petit jusqu'au plus grand, vont partir accusés par leur conscience. Et Jésus va dire à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. » Donc nous n'avons pas un Dieu de condamnation. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu d'amour qui pardonne nos péchés Et si nous prenons la décision de marcher selon sa volonté, Dieu nous pardonne de nos péchés et il les efface une fois pour toutes. Il dit, je ne me souviendrai donc plus de vos péchés. La Bible nous parle dans le livre de Zacharie au chapitre 4 de Zacharie. La Bible nous dit que le diable, on va le lire, Zacharie, chapitre 4. Alors, je retrouve rapidement le passage. J'ai ma Bible qui bug un peu là. Zacharie, on est dans le livre de Zacharie. Si quelqu'un retrouve le passage, il peut m'aider parce que j'ai un problème avec ma Bible, hein, comme j'utilise la Bible électronique. Alors, Zacharie. Donc, nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 3. Pas le chapitre 4, mais chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, on comprend déjà que l'accusation, celui qui accuse, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu l'amour de Dieu, nous devons refuser toute forme de condamnation dans nos cœurs, sauf si nous vivons encore dans le péché. Mais si nous avons demandé pardon à Dieu et que nous nous sommes repentis, c'est-à-dire que nous avons laissé ce pourquoi nous étions condamnés dans notre cœur, nous devons refuser toute autre condamnation qui peut venir après. Au verset 2, la Bible dit, « L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Pourquoi ? Parce que Josué avait des vêtements sales. La saleté, c'est l'image du péché. La Bible nous dit que Jésus viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et on sait que cette tache-là dont la Bible parle, c'est l'image du péché. Donc, tant qu'on est dans le péché, on est évidemment dans une position de se laisser accuser par le diable. Mais dès qu'on s'est repenti, alléluia, on doit refuser toute forme de condamnation. En tant qu'enfant de Dieu, dès lors qu'on a accepté le Seigneur, peu importe la vie qu'on avait, peu importe les mauvaises choses qu'on a faites, dès qu'on est sûr dans notre cœur d'avoir reçu l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, on refuse la condamnation. Et la Bible nous dit au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ça veut dire que le problème de Josué pour avoir accès à ces choses-là avant, c'était le péché. Dès que Josué a été libéré de son péché, libéré de l'accusation de l'ennemi, automatiquement, il a pu rentrer dans les choses. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit refuser de vivre dans la condamnation. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples de Jésus sont dans la condamnation et vivent dans leur passé. Il faut sortir du passé. Il faut sortir du passé. Il faut refuser la condamnation. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes libres en Jésus. Mais la Bible nous dit, nous avons été rachetés. Nous avons été appelés à la liberté, rachetés par Dieu. Mais seulement, on ne doit pas faire de cette liberté un motif pour vivre dans le désordre. Donc, quand on dit « nous sommes des hommes libres », ça ne veut pas dire des hommes qui doivent vivre dans le péché. Des hommes qui étaient dans le péché, libérés du péché, mais dont le péché ne doit pas être une source de condamnation par rapport aux choses qu'on a fait avant. Parce que, par exemple, on peut avoir fait des choses avant. Par exemple, il y a des femmes qui ont avorté avant. Et puis, elles ont du mal à, par exemple, se marier. Elles se disent, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai avorté avant ? Si tu as accepté Jésus, le péché de ton avortement a été pardonné. Si tu as accepté Jésus, le péché de ton vol a été pardonné. Si tu as accepté Jésus, le péché de ton mensonge a été pardonné. Marche maintenant en nouveauté de vie, comme un véritable enfant de Dieu, dans la crainte du nom de Jésus, et laisse la condamnation de côté. Les frères.
Ok, je vais lire un passage dans 1 Timothée 2, à partir du verset 3. Il est écrit, voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Donc ici, la volonté parfaite de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais la majorité d'entre nous, nous nous disons que nous allons à l'église, le fait d'aller à l'église, c'est d'être sauvés. Non, non. Dans Jean 14, 21, la Bible déclare que celui qui a l'amour de Dieu garde ses commandements. Alors, en tant que chrétien, il est admissible que toi et moi, qui connaissons la parole de Dieu, nous puissions encore haïr quelqu'un, ou encore avoir de la colère, ou encore avoir du manque de pardon. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu traverses, ou encore la situation dont tu vis, mais laisse-moi te dire que ce soir, que Dieu n'a pas changé. Il suffit seulement de lui donner tout ton cœur. Il suffit seulement de garder ses commandements. Il a dit, tu ne commettras point d'adultère. Il a dit, tu ne convoiteras point ce qui est autrui. C'est ça la parole de Dieu. Garde. Si tu gardes ses commandements, tu aimeras le Seigneur. C'est ce que je tenais à te dire, mon frère, ma sœur. Donc, ici, nous venons vous présenter l'amour de Dieu. Elle est pour chacun d'entre nous. Il a dit, il est venu pour ceux-là qui sont malades, pas pour ceux-là qui se portent en bonne santé. Non, si tu sais que tu es attaché à une difficulté, à un péché quel que soit, mais il est là, il ne te regarde pas avec tes erreurs, il ne te regarde pas à cause de ton péché, mais il veut que toi, tu sois sauvé. Amen. Amen.
Justin, tu voulais dire quelque chose?
Si on va dans Colossiens 2, 14. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, ce que nous remarquons, en tant que chrétiens, quand Dieu, dans son amour, quand il nous prend de loin, et c'est lui qui nous rassemble dans sa maison. Et quand il nous rassemble dans sa maison, nous devenons maintenant une famille. Et lorsque nous devenons une famille, l'amour aussi doit y être. Mais ce que nous remarquons, c'est que dans les églises, le monde aussi est entré. Et quand le monde est entré, il y a aussi de la jalousie dans l'œuvre de Dieu. Mais on doit reconnaître ici que quand Dieu donne les dons, ce n'est pas un homme qui les donne. Mais c'est Dieu qui donne les dons, soit à un frère, soit à une sœur. Et ce don est pour aider un frère ou une sœur. Ça peut être un don qui peut être pour aussi un frère, mais quand ça commence à agir, mais il y a souvent parfois de la jalousie dans ces choses à l'œuvre de Dieu. Alors, là où j'étais, il y avait des choses qui se passaient. Quand on servait le Seigneur, il y avait des sœurs qui avaient l'habitude de se regrouper ensemble. Des fois, ils étaient en train de parler entre eux, ça congossait pour une autre sœur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est arrivé jusqu'à faire C'est-à-dire qu'il y a une qui s'est déplacée, elle a fait un voyage. Quand elle est partie, elle a fait des médicaments qui arrivent avec elle. Elle est arrivée avec des coquillages, c'est pas des coquillages de mer. Il y avait deux et des plus petits qui se retrouvaient dans un flacon de relax qu'elle a mis. Et l'autre sœur ne suivait pas. Elle a mis ça dans le sac de l'autre. Alors, pendant qu'elle est en train de servir le Seigneur, mais à un moment donné, elle voyait qu'il y avait maintenant des moments où elle n'arrivait plus à prier, elle avait maintenant des faiblesses. Et il va arriver un jour où, qu'elle ouvre le sac, elle remarque qu'il y a un flacon de relax. Elle a pensé que c'est elle-même qui a mis ça. Quand elle ouvre, elle remarque qu'il y a des coquillages. Elle se pose la question, mais qui m'a mis ce relax à l'intérieur du sac? Ah, elle se posait des questions. Mais après, bon, elle n'a pas accusé personne. Elle a laissé ça comme ça. Mais il y avait maintenant un jour où que moi, je me suis mis à prêcher. Pendant que je prêchais, j'ai vu la sœur qui était à côté de nous. Elle était assise comme ça. Elle voulait mettre quelque chose dans le sac de madame.
En pleine réunion de prière.
En pleine réunion de prière.
Okay.
Et là, je me suis arrêté, je l'ai regardé, j'ai dit, mais sœur, qu'est-ce que tu fais comme ça? La fois dernière, c'est le même sac là où elle a découvert quelque chose. Est-ce que c'est toi qui avais mis ça? Elle a dit non, non, non. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu voulais faire dans le sac de l'autre? Et elle a eu peur parce que moi, je l'ai surpris. Et c'est là où j'ai dit à madame, j'ai dit non, c'est pas normal. Je pense que c'est celle-là qui avait eu à te mettre le flacon de relax à l'intérieur de ton sac. Mais là, je l'ai vu, elle voulait encore mettre quelque chose. J'ai dit, c'est pas normal, il faudrait la voir et la parler. Parce que des choses comme ça, on ne doit pas laisser. Et là, à la fin du culte, ils se sont vus. Elle a eu à échanger avec la sœur. Elle a dit non, ce que tu fais, ce n'est pas bien, il faut te repentir. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Ce que tu es en train de faire, ça, c'est de la sorcellerie. Il faudrait arrêter. Ce qui est sûr, Dieu nous dit, on doit s'aimer les uns les autres. Lorsque, quand Dieu nous a rassemblés, c'est pour s'aimer. C'est pour avoir de l'amour. C'est pour qu'on puisse être transformé, changé. Alors, je ne sais pas si vraiment la sœur, elle a pris ça avec un bon cœur ou bien vraiment où elle a continué. Mais quand elle est partie, à un moment donné, elle ne voulait plus parler avec madame parce qu'il y avait maintenant des jours, elle ne voulait même plus dire bonjour. Bon, on a laissé ça comme ça, on a dit non, il faut laisser. En tout cas, elle-même, elle va revenir sur sa conscience. Alors, j'aimerais dire ici que arrêter, Dieu ne nous condamne pas. Dieu, il est celui qui est venu vraiment pour nous aimer. Donc, les condamnations, c'est lorsque quand nous-mêmes nous revenons avec des choses du passé. Si nous venons encore avec les choses du passé et avec des actes, on devait déjà abandonner. Et si nous continuons d'amener ça encore à l'église, que ce soit à l'église ou à la maison, alors ça ne peut pas changer. Donc Dieu nous demande, lorsque quand nous agissons ainsi, nous devions revenir à la repentance, au pardon, avec le frère ou la sœur, lorsque quand nous agissons de la sorte.
C'est terrible, le témoignage que tu partages là, c'est la preuve qu'il y a des gens en fait qui fréquentent les églises mais qui n'ont pas connu l'amour de Dieu en fait.
Oui, oui.
Et quelqu'un faisait, j'écoutais le témoignage ou l'enseignement, c'était un enseignement d'un prédicateur, je vais pas donner son nom ici, et il disait que l'une des choses aujourd'hui qu'on constate dans l'église, c'est que tellement il y a plus l'amour en fait. Non, bon, on va pas dire qu'il y a plus d'amour parce qu'il y a toujours des frères et des sœurs qui s'aiment. Mais l'amour est de moins en moins manifesté. D'accord ? C'est-à-dire que c'est comme si on n'extériorise plus l'amour. Parce que, par exemple, beaucoup de gens ont du mal à... Par exemple, une sœur qui va, par exemple, venir témoigner qu'elle était prostituée, qu'en général, ce que les gens vont retenir d'elle, c'est que c'est la sœur à ne pas épouser. Donc, pour ne pas se retrouver mise à côté, catégorisée par les frères qui seraient à la recherche d'une future épouse, pour se dire que moi, je n'ai pas envie d'épouser une femme qui était une ancienne prostituée qui avait une mauvaise vie, ben, elle préfère ne plus témoigner, alors que son témoignage est une source d'édification et d'encouragement et de preuve de l'amour et de la grâce de Dieu. Effectivement, nous avons besoin. La Bible nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. C'est vraiment important à nous aimer les uns et les autres. Et dans cet amour, il y a vraiment beaucoup de patience qui doit se manifester. Beaucoup de patience, beaucoup de douceur. On doit se supporter les uns les autres. Bon, malheureusement, comme ce sont des humains qui sont là, qui sont censés s'aimer, mais qui ont des manquements, ça arrive toujours à des situations un peu délicates. Donc voilà un peu quoi. Moi, je voudrais partager un autre passage de la Bible. Alors, on est dans Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, ok. Galates 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc ici, on nous montre que l'amour, en fait, de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Et la Bible nous dit dans Romains 5, 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il y a le passage que Chopin a donné, qui est le passage où Jésus dit que celui qui dit qu'il aime son frère, d'accord, qui dit qu'il aime Dieu, il n'aime pas celui qu'il voit son prochain, il n'a pas l'amour de Dieu, en fait. L'amour de Dieu nous amène à poser les actes. Comme on a dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc nous aussi, dans notre amour pour Dieu, nous devons poser des actes qui sont des actes d'amour. Voyez, et Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mmh. Alléluia.
Amen.
L'amour de Dieu. Nous devons être remplis de l'amour de Dieu. Nous devons connaître l'amour de Dieu, parce que si on n'a pas connu nous-mêmes l'amour de Dieu, on ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Mmh. Et même quand on a connu l'amour de Dieu, si nous ne laissons pas Dieu transformer nos cœurs au quotidien, nous n'allons pas nous-mêmes vivre l'amour de Dieu. Parce que il y a ce passage dans Matthieu 5. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable d'aimer les autres avec leurs défauts qu'ils ont et que vous vous attendez que vous, avec vos défauts, Dieu vous pardonne, ben ne vous attendez pas à ce qu'il vous pardonne en fait. Et l'amour de Dieu, c'est ça. C'est d'avoir cette patience envers les autres, de se dire, ils ont ces manquements, mais on doit être en capacité de pouvoir les pardonner. Et c'est ça aussi l'amour de Dieu. Et ça, tous autant que nous sommes, nous en avons besoin. Tous autant que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous en avons véritablement besoin. Moi, je voudrais aborder le deuxième aspect qui est l'amour de Dieu qui est souvent mal compris. C'est-à-dire que vous avez des personnes, quand vous leur prêchez l'évangile, ils vont vous dire, mais Dieu est amour, non? Ils vont vous dire qu'ils ont accepté Christ. Ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens. Ils vont vous dire qu'ils fréquentent des églises. Ils vont vous dire le nom de leur pasteur, le nom de leur église. Ils vont même souvent vous dire qu'ils ont des responsabilités dans l'église. Et quand vous discutez avec eux pour leur dire, ok, donc tu es un frère, tu es une sœur, comment ça va la vie chrétienne? Comment ça va la sanctification? Est-ce que ça va la marche avec le Seigneur? Et que parfois tu es assis au salon en train de discuter avec la personne, tu vois un homme qui passe. Et tu demandes à la personne, tu es marié? Non, non, je ne suis pas marié. Mais tu dis que tu es chrétienne? Vous vivez ensemble? Oui. Vous couchez ensemble? Oui. Parce que tu vas voir parfois qu'elle a un bébé. Bon, ok, tu peux te dire, bon, elle a un bébé, peut-être que elle est tombée enceinte avant et puis elle s'est repentie. Donc, tu vas demander, est-ce que vous continuez à être ensemble? Oui. Mais attention, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que rechercher la paix avec tous, Hébreux 12, 14, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, là, ça s'arrête. La personne va te dire, mais Dieu connaît. Dieu est amour. Dieu connaît la situation dans laquelle je suis. Il m'aime dans cet état-là. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est un amour pour lequel il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous délivrer du péché. Donc ceux qui comprennent l'amour de Dieu comme ça, en fait, ils sont dans l'erreur. C'est un tort, c'est une erreur de comprendre l'amour de Dieu comme ça. L'amour de Dieu, c'est de délivrer l'homme du péché. L'amour de Dieu, c'est de faire sortir l'homme de la situation de péché dans laquelle l'homme se trouve. C'est ça l'amour de Dieu. Donc quelqu'un qui est encore dans le péché et qui dit que Dieu comprend, en fait, il a mal compris l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils. Et par amour, il dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je ne suis pas venu pour le juger. Mais le monde a déjà son propre juge. C'est la parole que je vous ai annoncée. Jésus dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc en fait, le simple fait de ne pas avoir Jésus, quand on dit Jésus, ce n'est pas Jésus de la confession de dire, je confesse Jésus en tant que Seigneur. Ne pas avoir Jésus en soi. Ne pas avoir Jésus en soi, ne pas être connu de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 7 que beaucoup diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, il y a des personnes, il y a des gens, des humains, qui sont dans les églises, qui fréquentent, qui font des choses pour le Seigneur, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Pourquoi? Simplement parce qu'ils pratiquent le péché, ils vivent délibérément dans le péché. Et donc, quand c'est comme ça, là, et qu'on veut faire passer l'amour de Dieu comme étant le motif pour lequel on est dans le péché, on est complètement à côté, mais vraiment complètement à côté de la plaque. Et ça, quand c'est comme ça, c'est notre devoir en tant qu'enfants de Dieu de nous interpeller avec les autres personnes, de dire, Dieu dans son amour ne veut pas qu'on vive dans le péché. La Bible dit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. La Bible nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour regarder le péché. Ses yeux sont trop purs pour regarder le péché. Il n'aime pas. Il ne peut pas regarder. Il ne supporte pas le péché. Vous voyez? Et c'est dans cet amour-là que Dieu va décider de condamner les gens. C'est-à-dire par amour. Par amour pour les hommes, Dieu va condamner les hommes. Regardez, par amour pour Israël. Dieu aimait Israël, mais par amour pour Israël, il fallait qu'Israël aille en captivité à Babylone. Il fallait qu'ils aillent en captivité à Babylone. C'est ça l'amour de Dieu. Ça veut dire que si par amour Dieu doit te châtier, il te châtiera. Et Dieu châtie celui qu'il aime. Ça veut dire que comme Dieu aime les hommes, tous les hommes qui ne voudront pas marcher selon sa volonté seront châtiés par Dieu et envoyés en enfer. Et l'enfer, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu va rétribuer chacun. C'est-à-dire que Dieu va payer chacun, donner à chacun selon ses œuvres. C'est ça l'amour. C'est un Dieu qui est juste, qui donne à chacun selon ce que Dieu aussi lui aura donné, c'est-à-dire dans son cœur. Vous voyez? Donc c'est vraiment important que les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu comme étant... Parce que moi, je disais souvent quand j'étais, avant de me convertir, mais que Dieu ne peut pas envoyer tout le monde en enfer. Si on regarde la proportion des personnes qui ont accepté Jésus dans le monde, si on regarde déjà les pays dits musulmans, si on regarde les pays arabes, les pays hindous, mais c'est beaucoup. Si on prend la Chine, plus d'un milliard d'habitants. Si on prend l'Inde, plus d'un milliard d'habitants. C'est des pays où c'est vrai qu'il y a quelques chrétiens, mais la proportion, plus de 90% de la population n'est pas chrétienne. Plus. Vous voyez? Et la dernière fois, j'avais fait un calcul avec un frère. Quand on avait trouvé des statistiques des chrétiens en Chine, ça représentait 1% de la population. Donc ça veut dire que 99% de la population chinoise ne croit pas en Jésus-Christ. En Inde, je crois que ça représentait 10% de la population, si mes souvenirs sont bons. Donc, quand vous comptez le nombre de milliards de personnes, juste dans ces deux pays-là, qui se chiffrent aux milliards d'habitants, le nombre de personnes qui n'ont pas accepté Jésus, qui vont en enfer, les gens se disent, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas dire que Dieu, qui est amour, qui est miséricordieux, va envoyer toutes ces personnes en enfer. Mais c'est triste à dire, nous ne nous en réjouissons pas, mais nous disons que dans son amour, Dieu va envoyer ces personnes en enfer. Parce que Dieu aime. Donc l'amour de Dieu, c'est que Dieu a déjà donné Jésus-Christ à la croix. Et si vous acceptez Jésus et que vous décidez de marcher selon les commandements de Dieu, la Bible nous dit que vous êtes sauvés, vous héritez de la vie éternelle. C'est ça le message que nous sommes venus vous prêcher. Cet amour de Dieu. Donc l'amour que Dieu nous a donné, mais également l'amour que nous devons manifester. Et cet amour-là consiste également aussi à prendre soin des orphelins. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques que la religion pure, qui est la religion doit consister à aimer, consiste à visiter les veuves, les orphelins et les prisonniers dans leurs afflictions. Donc, en tant que chrétiens qui disons aimer Dieu, nous devons le faire. Parce que dans Matthieu chapitre 25, Jésus va dire, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. Les disciples vont lui dire, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? T'avons-nous vu nu et t'avons-nous vêtu? Et quand t'avons-nous vu être en prison et on t'a visité? Il va leur dire, toutes les fois vous avez fait cela à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, c'est ça aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, et le problème c'est qu'aujourd'hui en tant que chrétien, pour nous l'amour de Dieu consiste à simplement aller dans nos réunions, dans les quatre murs de notre bâtiment d'église et aller là-bas. C'est bien. Mais l'amour de Dieu aussi consiste à pouvoir s'occuper des gens qui sont autour de nous. Consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Consiste à nourrir les personnes qui sont dans le besoin. C'est aussi ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste aussi à donner son argent pour l'œuvre de Dieu. Quand je dis l'œuvre de Dieu, qu'on se comprenne, ce n'est pas pour donner simplement à un homme. C'est pour donner à toutes les personnes qui servent le Seigneur. Enfin, je veux dire, si vous êtes dans une église et que l'argent que vous donnez, ben, on ne nourrit pas les pauvres, on ne nourrit pas les orphelins, mais c'est plutôt une seule personne qui s'en accapare, il y a un problème, ça a besoin d'être vu. Alléluia.
Amen. Amen.
Donc, on arrive bientôt au terme de l'émission. On va chuter. Donc, on va faire un dernier tour de table. Donc, Sosten.
Oui. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mm-hmm. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, lorsque nous laissons la place au Seigneur de prendre le contrôle, alors on devient vraiment cette personne qui a l'amour de Dieu. Nous ne devions pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Lorsque, quand le Seigneur prend le contrôle, nous voyons que l'amour de Dieu est parfait en nous. Et là, même s'il s'agit d'aller faire l'œuvre de Dieu, Dieu t'accompagne et Dieu te dirige pour te montrer le chemin et de ce qu'il faut faire par rapport à l'amour. Parce qu'il y a deux fois, on peut apporter, on peut payer des aliments pour aller donner, mais si Dieu n'est pas au centre, si seulement c'est pour seulement aller donner comme ça et que nous n'avons pas recommandé ces choses à Dieu, vraiment l'amour de Dieu n'est pas là. Malgré que même si on donne, c'est ce que j'avais à dire.
Ouais, pour soutenir ce que tu dis, on va lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, à partir du premier verset, 1 Corinthiens 13 à partir du premier verset, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, la charité, c'est encore plus fort que l'amour, hein, mais c'est la même chose, mais c'est un peu plus fort. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui rétentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, la charité, c'est l'amour. Hein? Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, l'amour, c'est la chose la plus importante. La Bible nous dit que tout va disparaître. Les prophéties, les langues, les miracles, tout ça là, ça va finir. La seule chose qui va demeurer, c'est l'amour. Amen.
Amen.
Donc, je ne sais pas, Jospin, pour le dernier tour.
D'accord. Ici, on va lire Ézéchiel 18. 20, la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et dans Romains 3, à partir du verset 23, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » C'est pour te dire que si tu pêches, tu connais très bien la parole. Mais nous faisons exprès de ne pas mettre en pratique ce que la parole dit. Mais sache que si tu pêches, tu meurs. Si tu pêches, tu mourras. Si tu pêches, tu iras droitement en enfer, si tu ne repens pas. Je ne sais pas de quoi tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais dans Matthieu 11, à partir du verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Quel est ton fardeau auquel tu transportes, que Dieu ne peut pas te donner? Est-ce les plaisirs de ce monde? Est-ce l'ivronnerie? Est-ce le tabac? Est-ce les boîtes de nuit que tu ne veux pas laisser? » Il dit également dans Matthieu que nul ne peut adorer deux maîtres à la fois. Soit tu aimes l'un ou bien tu haïras l'autre, mais pas les deux à la fois. C'est ce que nous, chrétiens, nous faisons souvent. Nous disons que le fait d'aller à l'église, nous sommes sauvés. De fait, aller à l'église, ça, cela suffit. Mais laisse-moi te dire, nous nous trompons en fait. Il faut mettre la place qu'il faut à Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime la droiture, il aime la justice. Si tu veux être ami de Dieu, marche conformément à ses lois, ses préceptes et ses commandements. Si tu veux voir la gloire de Dieu, respecte ce que sa parole lui dit. C'est ce que je tenais à te dire, mon frère, ma sœur. Que Dieu te bénisse.
Amen. Donc, le thème du partage, c'était l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu a manifesté à la croix et que nous devons lui rendre en retour. Et on a briefé, on a traité en bref aussi de l'amour que nous devons avoir en tant que frères et sœurs, de nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur aussi a interpellé. Donc, soyez bénis. Nous espérons que ce message vous a permis de davantage vous rapprocher du Seigneur, de davantage prendre des décisions pour vos propres vies. Alléluia, en espérant que vous avez ouvert vos cœurs, et que vous avez accepté d'être sensible. Vous savez, tout est une décision individuelle. L'Évangile est prêché, mais le choix revient à chacun des humains qui écoutent d'accepter ou de refuser. C'est un choix qui vous est proposé. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, et il te dit, choisis la vie. Et nous vous exhortons de choisir la vie. Et nous vous conseillons, nous vous conjurons de choisir la vie parce que c'est le plan de Dieu pour vous. Donc voilà, soyez bénis, que Dieu vous garde et à très bientôt.